J'ai à cœur de pouvoir vous parler d'un roi de l'Ancien Testament. Et quel roi? Ce fut le 14e roi du royaume de Juda. Je veux parler de Manassé. Et Manassé, nous avons son histoire dans 2 Chroniques au chapitre 33. Et nous allons lire comme introduction 2 Chroniques, chapitre 33, du verset 1 au verset 14. C'est nécessaire pour comprendre un petit peu le contexte de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. 2 Chroniques, chapitre 33, du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vous laisse le temps de chercher ce merveilleux chapitre et découvrir l'histoire de ce 14e roi du royaume de Juda. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus et de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé, le mirent dans les fers, et ils le lièrent avec des chaînes, des reins, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel et Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. On va s'en arrêter là. Quelle histoire, mes amis. Alors, qui était Manassé? On l'a lu, bien sûr, en introduction. Et d'ailleurs, à partir du verset 1, on découvre que c'est une personne qui a accédé au pouvoir très, très jeune. Il avait l'âge de 12 ans et il régna sur Jérusalem pendant 55 ans. Il fit ce qui est également mal aux yeux de l'Éternel, on l'a vu, contrairement à son père. Qui était son père? On l'a lu aussi également, c'était Ézéchias. Et qui Ézéchias? C'était une des grandes figures, d'homme de Dieu de l'Ancien Testament, un homme qui a créé des réformes religieuses et qui a restauré le temple de Dieu et a remis aussi en pratique la fête de la Pâque et vraiment a béni le peuple de Dieu. Mais voilà, on découvre que Manassé n'a pas suivi les voies de son père. Est-ce que vous savez que veut dire le nom Manassé? Vous savez que les noms hébreux ont une signification. Moi, je m'appelle Joël, et ce nom veut dire l'Éternel est Dieu. J'en suis très fier d'ailleurs. Et Manassé, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Manassé? Qui oublie. Et on se rend compte que Manassé, finalement, avait oublié un petit peu l'exemple de son père. un homme remarquable. C'est le temps qui me manquerait pour expliquer que Ézéchias, son père était un homme respecté, mais aussi respectable. Par exemple, quand on lit 2 Chroniques, chapitre 31, verset 20, je ne sais pas si on peut l'avoir, il nous a dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Et en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Voilà quel est le trempe de père qui était Ézéchias, un exemple pour son fils. Mais ce dernier n'a pas suivi les voies de son père. Il a oublié les voies. Et je crois même qu'il a oublié Dieu, et c'est le cas de le dire, et c'est peu de le dire, puisque la Bible nous dit au verset 2, il fit Manassé, pour parler de lui, il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est le temps qui nous manquerait pour détailler tout ce que ce roi a fait comme abomination. Vous savez, quand le péché nous tient, même en tant que croyant, parce que là on a affaire à un roi en Juda, un roi sur Jérusalem, donc un croyant quelque part. Et par excellence, Manassé était ni plus ni moins un méchant aux yeux de l'Éternel, un homme qui a pratiqué le péché, qui a respiré le péché et dont le péché était énorme. Juste un rappel des abominations que Manassé a pu pratiquer. Il rétablit les hauts lieux que son père avait détruits. Il se prosterna devant les idoles païennes. La Bible nous dit, le texte qu'on a lu nous dit, il dressa des autels à des divinités païennes telles que Baal, Astarté. Si vous savez qui était le dieu Baal, qui est toujours d'actualité, qui est sous un autre nom, mais qui est toujours d'actualité. Il bâtit des autels aux astres des cieux jusque dans le parvis du temple de Dieu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonna, nous dit la Bible, à la magie. Qu'est-ce qu'il fit encore? Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. On lit aussi dans le texte, l'introduction, qu'il offrit en sacrifice ses propres fils. Offrir son fils à un dieu quelconque, des sacrifices humains. Vous croyez que ça n'existe pas? C'est encore caché, mais bien réel. Et je le dis, j'ouvre et je ferme la parenthèse, des disparitions de certains enfants sont ni plus ni moins, ont pour objectif de pouvoir après effectuer des sacrifices. Je vous le dis parce que ce sont des réalités. On voit Manassé qui a fait des choses horribles, des choses qui étaient condamnables aux yeux de l'Éternel. Quand on lit par exemple Deutéronome chapitre 18, on va prendre le temps de le dire, c'est tellement important ce matin, Deutéronome chapitre 18. Et quand il nous est dit du verset 9 au verset 14 les choses suivantes, on a besoin d'écouter ces choses ce matin. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Mais tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et ce passage, il le connaissait très bien, notre ami Manassé. Mais il ne le prenait pas en compte. Il n'a pas voulu obéir. Et s'il n'avait fait que cela? La Bible nous dit, et c'est dans le livre des rois, on n'a pas le temps de le chercher, mais vous pourrez le lire chez vous, de Rois chapitre 21 verset 16, on découvre que Manassé tua beaucoup de personnes innocentes sur Jérusalem. C'est la tradition rabbinique qui accuse même Manassé d'avoir fait mourir le prophète Ésaïe. Et il l'a fait mourir d'une manière horrible, puisqu'il a demandé à ce que le prophète Ésaïe soit scié. Manassé, dans sa folie, entraîna le peuple dans son péché. Et vous comprenez bien que cela amena la patience de Dieu jusqu'à ses retranchements. Et Dieu a été amené en retour à exercer des jugements. Et on l'a lu dans le texte, eh bien Dieu a dépêché les ennemis d'Israël, eh bien de pouvoir venir et assiéger Jérusalem et mieux encore de pouvoir lier de chaînes des reins Manassé et le conduire en captivité à Babylone. Mais, il y a un mais dans cette histoire et on l'a lu aussi. L'histoire raconte qu'au fond de sa prison, Manassé s'humilia profondément. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez fait attention avec moi, eh bien ce verset clé pour moi dans toute cette histoire, au cœur, au fond même de sa prison, alors qu'il est dans les chaînes d'airain, cet homme, enfin, eh bien, a arrêté d'oublier Dieu, mais a levé la tête vers Dieu et a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il s'humilia profondément. Et voyez-vous ce que Dieu a fait ? Eh bien, il se laissa fléchir. Là aussi, ce verset, il est puissant. Et l'Éternel se laissant fléchir au verset 13. Il exauça ses supplications et le ramena, eh bien, notre ami Manassé à Jérusalem dans son royaume. Et c'est alors que Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est pas beau, ça ? Qui aurait cru que Dieu allait se laisser fléchir par un homme aussi abominable? Je ne sais pas quel verdict nous on aurait à l'égard de Manassé. Je ne sais pas, eh bien, quelle attitude on aurait à l'égard de cet homme qui était, j'ai envie de dire, à l'échelle humaine, impardonnable. Mais notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est grand. Cette histoire, elle est là dans l'Ancien Testament pour nous rappeler la bonté de Dieu, l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Et je voudrais vous dire de la part de Dieu, vous, peut-être qui venez avec un lourd fardeau, vous qui avez été peut-être même ce matin empêché de louer le Seigneur parce que vous êtes culpabilisé, parce que la semaine, elle n'a pas été ce que vous aviez voulu qu'elle soit. Notre Dieu, il pardonne. Notre Dieu, il est bon. Et si tout comme Manassé, eh bien, au milieu de notre prison, au milieu de notre culpabilité, nous sommes, eh bien, amenés à pouvoir crier vers Dieu et lui demander grâce, lui demander humblement pardon, eh bien, Dieu va vous pardonner. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Soyons nous-mêmes, soyons transparents devant Dieu. Nous avons tous besoin à un moment donné dans notre marche chrétienne de revenir devant le trône de la grâce et d'implorer la grâce de Dieu comme Manassé l'a fait. Et si c'est ton temps pour toi ce matin, fais-le simplement, librement, humblement, profondément, de tout ton cœur. Et Dieu, alléluia, te fera grâce. La Bible dit, psaume chapitre 86 et le verset 5, la vérité suivante concernant Dieu. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Que son nom soit béni. Mais là où je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est au sujet de ce qui s'est passé après. Ah bien que Manassé se soit repenti de son péché. Après que Manassé fut rétabli, ah bien, par Dieu dans sa royauté. La Bible nous dit, ah bien, que Manassé fit quelques réformes, ah bien, dans son royaume, et ces réformes, nous les retrouvons à partir du verset 14 qu'on va relire. Deux Chroniques, chapitre 33, du verset 14 et jusqu'au verset 17. Et regardez, et toutes les réformes, ah bien, que ce roi, hein, le roi Manassé, a pu, ah bien, effectuer dans son royaume. La Bible nous dit au verset 14, « Après cela, Manassé bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. » Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Amen. C'est beau ça. C'est quelques versets. Quel revirement de situation. Quel changement, quelle transformation. On voit là les fruits qui sont dignes d'une véritable repentance. Manassé mis en place 7 réformes dans son royaume. 7 réformes dans son royaume, en prévision des futures attaques ennemies. Manassé mis en place 7 réformes, si vous comptez bien, il y a 7 réformes afin de ne pas retomber à nouveau dans les mains de ses ennemis. Et pour nous chrétiens, ces réformes sont comme ce matin des clés spirituelles. Des clés spirituelles que nous devons prendre en compte dans notre vie personnelle et qui vont nous permettre d'être victorieux devant le diable, devant toute forme d'adversité, devant les tentations, devant le mal, devant le péché, et comme je l'ai partagé vendredi soir, qui nous enveloppe si facilement. Et je voudrais, eh bien, ce matin, juste voir, on va pas aller voir toutes ces réformes, mais juste en voir 2 ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on les regarde ensemble? On verra par la suite, je vais me laisser conduire, comment on va faire pour le reste de ces réformes, mais juste voir 2 réformes. 2 premières réformes que cet homme a fait. La première réforme, on le trouve bien sûr au verset 14, en commençant par le commencement. La première des réformes que Manassé mit en place après son rétablissement dans sa royauté, Manassé, il nous est dit au verset 14, bâtit un mur. Manassé est conscient que s'il a été si facilement, eh bien, retenu dans les chaînes en captivité à Babylone, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de protection dans son territoire, dans son royaume. Et c'est alors, eh bien, qu'il bâtit un mur, et il est précisé qu'il bâtit un mur d'une grande hauteur. Et je ne sais pas si vous l'avez souligné, eh bien, en lisant ce passage avec moi, et il faut le souligner, c'est un mur, pas de petite hauteur, de grande hauteur. Et ce mur de grande hauteur devait créer une franche séparation entre, eh bien, ses ennemis physiques, en l'occurrence les chefs de l'armée assyrienne. Mais j'ai mis aussi sur mes notes que finalement ce mur de grande hauteur devait créer une franche séparation avec un autre ennemi, un ennemi d'ordre spirituel. Ce mur de grande hauteur devait être le symbole de cette décision personnelle de Manassé de créer une franche séparation avec, eh bien, son ennemi spirituel, qui était ni plus ni moins le péché. Qui l'a amené en captivité à Babylone, si ce n'est sa désobéissance? C'est pour ça qu'en retour, Dieu l'a livré entre les mains de ses ennemis. Manassé savait très bien que sa captivité à Babylone était la conséquence de sa rébellion à Dieu. Car voyez-vous, le péché, on peut dire, est semblable à ce mur de grande hauteur. Un mur de grande hauteur, même 4 murs, les 4 murs d'une prison qui nous enferme, qui nous rend hermétique, eh bien, toute la grâce, les bénédictions que Dieu veut nous apporter. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ésaïe. Quand on lit, par exemple, Ésaïe, chapitre 59, les versets 1 et 2, on va les lire, ça va nous faire du bien. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Peut-être c'est la réponse que Dieu veut te donner ce matin et que tu attends. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, autrement dit, qui mettent un mur entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Souvent on dit, le cœur des gens sont durs et ils ont du mal. Si nous voyons quelquefois, si nous ne voyons pas la bénédiction, si nous ne voyons pas le réveil venir déjà dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos églises et dans nos villes, c'est bien souvent à cause de ce mur qui fait barrage, qui fait obstruction à ce que Dieu veut déverser sur nos vies, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu 3 fois saint et il n'accepte pas le péché en sa présence. Ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, a dépêché Jésus afin qu'il vienne nous affranchir du péché. À la croix, Jésus est venu régler la question du péché de l'humanité. À la croix, Jésus, au prix de son sang, a voulu abolir le péché, a voulu, eh bien, tel un puissant rédempteur, nous libérer, nous affranchir, eh bien, de la puissance et de l'esclavage du péché. C'est pour ça que Jésus pourra dire lui-même, eh bien, cette vérité, Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Tu retombes toujours dans les mêmes travers. Tu es dans ces chaînes et tu connais le nom de ces chaînes. Et tes résolutions ne servent à rien parce que tu as besoin de lever la tête et considérer ce puissant rédempteur qui est capable de te libérer et briser ces formes de chaînes qui t'empêchent, alléluia, d'être béni par Dieu. C'est tellement, tellement important. quel que soit le fardeau de ton péché qui pèse sur ton cœur, Jésus peut pleinement t'en affranchir ce matin. Il s'agit pour toi d'implorer le pardon de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, je le recite, tant pis, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pour toi, ces paroles ce matin. Ne cherche pas ailleurs. C'est ça qui fait travers. C'est ça qui t'empêche, alléluia, d'atteindre le but. Parce que par définition, le péché, c'est manquer la cible, manquer le but. Alors Manassé bâtit un mur d'une grande hauteur qui n'allait plus servir, bien sûr, à le séparer de Dieu, mais au contraire qui allait servir à le séparer de ses véritables ennemis. Et pour nous, il y a un enseignement ce matin. Pour nous, chrétiens, décidons également de bâtir des murs spirituels. On a besoin de bâtir des murs spirituels dans nos vies chrétiennes, frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des constructeurs, des bâtisseurs, comme notre Père Céleste, et à ériger des murs spirituels face à nos véritables ennemis. Alors que dans le monde, les hommes érigent des murs de haine, des murs d'arrogance, des murs d'orgueil, des murs de non-pardon, des murs d'égoïsme, des murs d'indifférence à l'égard de leur prochain et même à l'égard de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à bâtir des murs contre le mal, bâtir des murs contre le mensonge, bâtir des murs contre l'injustice. On a chanté des merveilleux cantiques ce matin. On a besoin d'ériger des murs, le mur du nom de Jésus face à l'ennemi qui vient devant nous. Nous élevons le nom de Jésus en face de tous nos ennemis, car le nom de Jésus est une puissance en soi. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom, et nous sommes en droit, avec l'autorité que le Saint-Esprit nous donne, de dire au nom de Jésus, tu ne rentreras pas. Au nom de Jésus, toi, le diable, tu ne rentreras pas dans ma maison. Tu ne rentreras pas dans mes affaires. Tu me troubleras pas dans mon esprit. Tu me troubleras pas dans mon cœur. C'est à nous de prendre cette autorité et d'ériger ce mur spirituel. Nous avons besoin de décider d'ériger des murs de prière et d'intercession pour les nôtres, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre ville. Avez-vous vu ce que a fait comme constat Dieu au travers de la bouche de son prophète Ézéchiel? Ézéchiel chapitre 22, les versets 29 et 30, on va le lire ensemble, vous allez voir. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 et 30, je vous laisse le temps de chercher ce passage. Le constat que Dieu fait et qu'il exprime au travers de la bouche de son prophète Ézéchiel: le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme, sous-entendu aussi une femme, qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de la ville d'Istre, et je ne pêche pas en disant cela, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quel constat terrible, je n'en trouve point. Et plaise à Dieu ce matin qu'il puisse trouver des hommes et des femmes qui intercèdent. Je vous encourage, frères et sœurs, même à pouvoir venir le mardi soir, c'est tellement important de pouvoir combattre et prier pour notre ville, prier pour les nôtres. Dieu exauce les prières et nous le savons. Et à plus forte raison quand l'Église s'unit pour intercéder, pour prier, pour tellement de besoins. Le diable attaque, c'est une réalité. Lui, il sait qu'il n'a plus l'occasion de se retourner. Il sait qu'il va droit en enfer. Et il veut atteindre plus que jamais le cœur même de Dieu. Et il sait qu'il peut le faire en touchant les chrétiens. Et on a besoin de considérer qu'on est au cœur même d'un combat. Vous entendu ce matin tous les chants de combat que nous avons chantés et de victoire aussi, oui. Puisque dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, gloire à Dieu. Des murs de prière. Pourquoi pas aussi des murs de foi face aux attaques du diable? C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va nous donner tout un attirail de l'armure qui doit être la nôtre. Il nous parle du casque du salut, il nous parle de la cuirasse de la justice, il nous parle de quoi encore? Allez, aidez-moi. La ceinture, dit ma sœur, merci. Une autre personne va dire quoi? Le quoi? Les chaussures, alléluia, du zèle de l'évangile, amen. Il faut, c'est pour ça que les dimanches après-midi à la rentrée, on va continuer les dimanches après-midi à pouvoir aller à l'extérieur et avoir du zèle pour aller dire aux gens qu'il y a encore espoir pour eux. Mais il nous a aussi donné le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi est tel un mur un rempart. Vous savez, les anciens boucliers avaient presque la hauteur des soldats romains. Et on peut comprendre que l'apôtre Paul faisait allusion à ce bouclier qui était indispensable pour se protéger des flèches des ennemis. Et la Bible nous dit que le bouclier de la foi sert à pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelles sont ces flèches qui te troublent? Quelles sont ces flèches qui t'empêchent de réfléchir comme tu devrais réfléchir? Quelles sont ces flèches qui t'amènent plutôt à bien vers, à regarder les choses négatives, plutôt à ton Dieu? Qui, on l'a entendu, marche même au milieu de la tempête. C'est lui qui, lorsque les disciples l'ont réveillé, d'un mot, a calmé la tempête. C'est extraordinaire ça. Notre Dieu, il est puissant, notre Dieu, il est grand. Le mur de la foi face aux attaques du diable. Quel est le mur? Le rempart que tu as besoin de bâtir dans ta vie et qui te permettra d'être plus que vainqueur face à tous tes ennemis, face à bien, par exemple, au péché, face aux tentations et même à toute la puissance des ténèbres. Demande-le au Seigneur et il te le révélera. Pendant ce temps estival, temps de vacances estivales, place ta voix devant Dieu. Seigneur, je cherche ta face. Je veux me renforcer. Vous savez que plus on va avancer dans le temps, plus ce sera de plus en plus difficile. Et quelque part, immanquablement, Dieu est en train de faire le tri entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Celui qui aime Dieu et celui qui ne l'aime pas. Entre le méchant et le juste. Et cette séparation se fera tout seul. Alors qu'on est en train de louer le Seigneur, je pensais à cette réalité. Avec le Seigneur, c'est pas une course de 100 mètres qu'on fait. C'est une course d'endurance. Et il faut tenir dans le temps. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens tout feu, tout flamme, plein d'éclats, et puis après, il n'y a plus personne. Mais il nous faut persévérer. Parce qu'au bout du voyage, le Seigneur saura dire, c'est bien bon et fidèle, serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et pour être endurant, spirituellement parlant, il nous faut nous armer de toutes les armes spirituelles que Dieu nous confie. Il nous faut ériger des murs spirituels. Il nous faut, alléluia, bien faire face à l'ennemi et être des violences spirituelles et dire non, tu n'entreras pas parce que ma demeure appartient au Seigneur Jésus. Voilà la première réforme. Il y en a une deuxième et je vais terminer par cela, toujours au verset 14. Pourquoi aller plus loin ? Deux Chroniques, chapitre 33, le verset 14, je pense qu'on peut l'avoir tout à nouveau devant les yeux. La Bible nous dit, après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il en tira la colline. Et il s'éleva à une grande, il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Amen. Nous aussi, on a besoin de mettre des chefs militaires. Où? Dans toutes les villes fortes. Et autrement dit, qu'est-ce que a fait Manassé? Manassé, il établit des chefs militaires dans tous les points stratégiques de son royaume. Et il y a aussi dans notre vie des points stratégiques que le diable s'efforcera d'attaquer. Vous savez, c'est un être qui a été créé par Dieu, et la Bible nous révèle que c'était un ange céleste. Et quel ange? Il avait la responsabilité de conduire tout le reste des anges bien dans l'adoration qui revient uniquement à Dieu. Mais cet astre brillant, car Lucifer veut dire astre brillant, est tombé, a été déchu parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. Et cet être céleste, ayant traversé les siècles, puisque c'est un être aussi éternel, a eu le temps d'observer les êtres humains, et particulièrement les chrétiens. Et il sait que nous sommes tous avec cette nature pécheresse. Et il sait qu'il y a des points stratégiques, eh bien, qu'il aimerait s'emparer dans nos vies. Et ces points stratégiques, il les affectionne. Et il se tient en embuscade, prêt à pouvoir bondir. Et on a besoin, eh bien, de pouvoir avoir du discernement sur ces points stratégiques. Et je voudrais juste vous donner un seul exemple parmi tant d'autres de ces points stratégiques. Un point stratégique où les villes fortes de nos vies, c'est quoi, si ce n'est la bouche? Par exemple, il faut tout transposer, eh bien sur le plan spirituel, notre bouche. Et ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit, par exemple, que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Est-ce que vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche? Comment comprenez-vous ce verset? Avez-vous déjà réfléchi sur ce passage? La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. On est capable même de tuer avec notre bouche. Quand je pense qu'au départ, Dieu créa le ciel et la terre, mais c'est par la parole qu'il a créé ces choses. Et rappelez-vous que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et notre bouche, ce qui sort, nos mots ont un pouvoir, ont une puissance, soit bénéfique ou négatif, sur nos vies et sur celles des autres. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Jacques, par exemple, l'apôtre Jacques, dans son épître, a dit que la langue a le pouvoir de souiller tout le corps et même d'enflammer le cours de la vie. Jésus, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a dit ? Dans Matthieu chapitre 12, les versets 36 à 37, on va les lire aussi, ça va nous faire du bien. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes mêmes paroles, tu seras soit condamné. » Et nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Et nous devons tous comparaître sur ce qui est sorti de nos bouches. Vous savez, il y a des chrétiens, ils attendent de la part du Seigneur des bénédictions. Mais quand on constate eh bien, ce qu'ils font, même chez eux, ils ne passent que leur temps à pouvoir critiquer, à sortir des paroles négatives. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont ni plus ni moins en train de se souiller eux-mêmes personnellement. Souiller ceux qui les écoutent, et à commencer par les membres de leur famille. Qu'est-ce que tu dis à table, devant les oreilles de tes enfants ? Est-ce que tu bénis ton prochain ? Ou est-ce que tu le critiques ? C'est tellement facile, frères et sœurs. C'est vrai ou c'est pas vrai, ce que je suis en train de dire ? Et c'est là où on a besoin, frères et sœurs, de discernement. La bouche, un point stratégique, une ville forte. C'est de notre bouche que nous pouvons accéder au salut éternel. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 10, verset 10, ne le cherchez pas, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si aujourd'hui, même toi qui ne connais pas le Seigneur, tu cries à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi, entre dans ma vie, tu es sauvé. Et croyez-moi, le diable, il sait toutes ces choses. Il sait que eh bien, le point stratégique, l'un des points stratégiques dans notre être, eh bien, c'est ni plus ni moins ce qui sort de notre bouche. D'ailleurs, Jésus va le dire, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Mais ce qui sort aussi de notre bouche peut être aussi salutaire. Et le diable voudrait nous empêcher de prier. Ce matin, si peut-être même tu n'avais pas à cœur de pouvoir louer et adorer le Seigneur, crois-moi, ça peut être aussi, entre autres, une stratégie de l'ennemi. Pour t'empêcher, même au cœur de la tempête, d'exercer ta foi et dire « Mais Seigneur, je vais te louer quand même !» Le diable, il voudrait au contraire eh bien, influencer ta bouche pour au contraire eh bien, rester dans des formes de plainte. Vous savez, en regardant bien, il y aura toujours des défauts. Hein. Il y aura toujours des problèmes. Mais si nous décidions de regarder sur les choses positives, si nous décidions de regarder vers le chef et le consommateur de notre foi, à savoir Jésus-Christ, la donne pourrait changer. Le diable voudrait influencer ta bouche pour que tu confesses toujours la défaite, pour que tu calomnies, pour que tu mentes, pour que, eh bien, plein d'autres choses. D'où l'importance, mes amis, de sécuriser, c'est le mot, notre bouche en exprimant la prière que David a faite en son temps. Vous la connaissez cette prière ? Psaume 141, verset 3. Elle est à propos par rapport à ce qu'on partage ? Éternel, mets une garde à ma bouche. Seigneur, mets des chefs militaires à ma bouche. Aux portes de mes lèvres. On dit souvent, il faut, avant de parler, tourner sa langue 7 fois. Les Chinois ont un proverbe, ils disent, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Et dis-moi ce qui sort de ta bouche et je te dirai qui tu es. Je te dirai quelle direction tu prends aujourd'hui et que tu prendras demain. Mais de ta bouche, ouvre-la et confesse le Dieu vivant, le Dieu créateur. Confesse la victoire de ton Dieu. Confesse que Dieu est tout-puissant. J'ai parlé de la bouche comme point stratégique. J'aurais pu parler d'autres endroits. Allez, aidez-moi. Ça peut être les yeux. C'est un point stratégique. Ce n'est pas une ville forte, les yeux. Merci Seigneur pour nos yeux. Les oreilles, a dit ma sœur, c'est vrai. Les oreilles, le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là aussi, il faut demander à Dieu qu'il nous montre où il nous faut stratégiquement placer les chefs militaires. Alors certains pourraient me dire, mais comment tu parles là ? C'est quoi les chefs militaires ? Mais les chefs militaires, eh bien, ils peuvent avoir plusieurs noms. Les chefs militaires, c'est juste la vigilance que tu dois avoir. Les chefs militaires, ça peut être la discipline que tu dois avoir. Et tu sais que ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, arrache-le. Vous avez compris que c'est pas sous le plan physique que Dieu nous parlait. mais bel et bien sur le plan spirituel, mais il y a un effort à faire. Et quel effort ? Une discipline, une obéissance. Les chefs militaires, c'est ni plus ni moins, c'est ton obéissance. Seigneur, je veux redoubler d'obéissance à tel niveau. Au niveau du pardon, j'ai du mal à le faire. Mais Seigneur, je veux redoubler d'efforts au niveau de l'obéissance. Au niveau de la foi. Et à vous de choisir les noms que vous donnerez à vos chefs militaires. Ça peut être aussi la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, viens prendre le relais par la puissance du Saint-Esprit et m'aider à dire non quand je dois dire non. Et oui quand je dois dire oui. 2 Samuel chapitre 22 verset 24, on en a bientôt fini. 2 Samuel chapitre 22 verset 24. David, certainement au travers de ce verset, faisait allusion à ses propres faiblesses. Quand il va dire « J'étais sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » Autrement dit, dans ma propre vie, voilà un homme selon le cœur de Dieu. Stratégiquement, parce que c'était un homme de guerre, je me suis tenu en garde. J'ai mis finalement les chefs militaires contre mon iniquité. De quoi faisait-il allusion quand il parlait de son iniquité ? Certainement de ses propres faiblesses. Qui n'a pas de faiblesse ? Levez la main, s'il vous plaît, que je vous repère pour que de suite après nous ayons un entretien à côté. On a tous des faiblesses. Pour ça, avec Dieu, il ne faut pas jouer un rôle. Il faut qu'on soit soi-même. Je vous l'ai déjà dit, je suis devant vous. J'ai cette responsabilité de vous apporter le conseil de Dieu, mais je ne suis pas plus que vous. Je suis un pécheur sauvé par grâce et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous faibles et si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Mais l'homme intelligent, spirituellement parlant, c'est celui qui est conscient de ses faiblesses. Et parce qu'il est conscient de ses faiblesses, eh bien, la même prière, la même attitude que David. Seigneur, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je sais là où je faillis si facilement. Je connais mes tendances. Je connais ma nature pécheresse qui m'a fait tellement de défauts bien des fois. Et je n'ai pas de force à ce niveau. Seigneur, aide-moi à mettre, alléluia, des chefs spirituels. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Je conclue en disant qu'à travers les réformes que Manassé mis en place dans son royaume, Dieu désire vraiment nous donner comme des clés spirituelles pour nous aider à être plus que vainqueurs face à tous nos ennemis. Il nous a parlé des murs spirituels. Il y a trop de courants d'air dans ta vie spirituelle. C'est pour ça que le diable, s'il vient pas devant toi, il vient derrière toi, à côté, etc. Parce que tu n'es pas protégé. Parce que tu n'as pas pris le temps d'élever, d'ériger des murs spirituels. Et c'est à toi de donner, eh bien, des noms à ces murs spirituels dont tu as besoin. C'est peut-être la prière dont tu as besoin. C'est peut-être aussi le fait de méditer la parole de Dieu. Je me rends compte, eh bien, que le peuple de Dieu est encore pauvre. Si nous nous contentons uniquement de ce qu'on entend le dimanche matin. Frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu nous exhorte également à pouvoir redoubler de vigilance et de placer des gardes, des chefs militaires, eh bien dans notre vie chrétienne, là où particulièrement peut-être, là où particulièrement nous sommes faibles. Et tu sais là où tu es faible. Là où peut-être d'autres choses, d'autres idoles pourraient prendre la place de Dieu. On va prendre le temps peut-être de voir les autres réformes que Dieu a fait. Et on a un travail à faire. Le gros du travail, Dieu l'a fait à 99%. Son sein était efficace. Mais le 1%, il est pour nous. Et il restera toujours pour nous. Et c'est peut-être 1% qui sera déterminant par rapport à notre éternité. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il a voulu nous dire ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, c'est étonnant parce que de cet homme, Seigneur mon Dieu, si loin de toi, cet homme pécheur, c'est le cas de le dire, cet homme abominable. Non seulement, Seigneur, alors qu'il s'est repenti, tu lui as fait grâce. Mais aujourd'hui même, tu l'utilises pour nous enseigner et pour nous parler de clés spirituelles que tu mets et tu places devant nous, afin que nous ne soyons pas des chrétiens ballottants à droite à gauche, que nous soyons au contraire des chrétiens matures, affermis dans la foi et inébranlables face aux assauts de l'ennemi. Tu nous invites à ériger des murs spirituels. Tu nous invites à pouvoir placer stratégiquement dans ce combat dans lequel, Seigneur, tu nous invites. Seigneur Père, mon Dieu, tu nous invites à pouvoir placer des chefs spirituels face à nos ennemis. Et nous voudrions, Seigneur, mener ce combat avec le Saint-Esprit. Nous te demandons grâce. Seigneur mon Dieu, au travers de ces temps de vacances, de pouvoir chercher ta face, de pouvoir prendre du temps, Seigneur Père mon Dieu, et de te donner une place de choix dans nos vies de chaque jour, pour que, Seigneur mon Dieu, tu puisses affermir, et Seigneur mon Dieu, ce qui est encore ébranlant, et Seigneur, dans notre vie, ce qui est encore fragile, ce qui est susceptible d'être une faille par laquelle l'ennemi pourrait s'infiltrer. Seigneur, tu reviens bientôt, et rien n'a pur ni de souillé n'entrera dans ton royaume. Tu reviens bientôt et tu vas venir chercher des vainqueurs, pas des gens tièdes, et de nous comprendre ces choses. Et s'il y avait quelques péchés, quelques fautes qui nous sépareraient de toi, Père Céleste, Dieu de grâce, tout comme tu l'as fait à Manassé, pardonne-nous. Nous te prions pour nos propres vies, mais nous te prions pour ceux et celles qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, pour nos rétrogrades, pour, Seigneur, ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui sont dans l'aveuglement, Seigneur, pardonne. Je te dis, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, guéris notre cœur, mais guéris notre pays. Seigneur, réveille nos cœurs. Seigneur, plus que la coupe du monde, nous voudrions remporter, Seigneur Père, la couronne de justice que tu réserves pour ceux et celles, alléluia, qui auront été des combattants, ceux et celles qui ont pris au sérieux ta parole, ceux et celles qui n'ont pas méprisé ce si grand salut que tu nous as accordé. Te demandons grâce dans le nom de Jésus. Amen.